Vous écoutez, on lit pour vous.
Apprendre à se connaître. Un texte de Gwendoline Le Beaumain, paru le 26 septembre 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Le 30 septembre, le pays commémore la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et ce, depuis 2021. Cette journée est aussi connue sous le nom de la Journée du chandail orange, qui a été mise en place en 2013. Pour rappel, de 1867 à 1996, 140 pensionnats ont été administrés par le gouvernement fédéral. C'est donc plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis ou Inuits, qui ont été forcés de fréquenter des écoles gérées par l'Église et financées par le gouvernement. Ces enfants ont vécu dans des pensionnats pour être assimilés à la culture euro-canadienne. On estime à 6 000 le nombre de décès d'enfants dans les pensionnats. Cette journée invite alors l'ensemble de la communauté à réfléchir aux impacts du colonialisme et au douloureux héritage des pensionnats. L'un des nombreux effets nocifs de la colonisation sur les communautés autochtones est le traumatisme intergénérationnel. Pour les personnes survivantes des pensionnats et leurs descendances, s'ensuit alors un long travail de réappropriation de sa culture, de ses origines. Réapprendre à se connaître et à ressentir, renouer avec ses sentiments enfouis, parler, révéler ce qui s'est passé est déjà un premier pas vers la guérison. Une soirée de discussion organisée au Old Fire Hall récemment a porté sur l'origine et l'histoire de la suppression émotionnelle et l'importance de retrouver une maturité émotionnelle pour guérir le monde. L'un des invités, le Dr. Lee Brown, ancien directeur de l'Institute of Aboriginal Health à l'Université de la Colombie-Britannique, a abordé cette question de guérison. Selon lui, celle-ci débute par l'examen de la question de la vérité et de la réconciliation et le partage d'émotions. Réapprendre également grâce à l'éducation. Cette journée est l'occasion de reconnaître la force et la résilience des Premières Nations du Yukon et des communautés autochtones de tout le Canada. Il s'agit d'une question de survie parfois. En apprendre plus sur leur histoire, reconnaître le passé sombre de cette période qui dure depuis plus de 150 ans. Pour ce faire, plusieurs événements sont organisés partout au Yukon. Par exemple, John Finglin, de la Première Nation de Champagne et d'Aishihik, est venu présenter un aperçu de l'histoire des Premières Nations du Yukon au centre de la francophonie. En août dernier, une statue du chef Trondek Wichin Isaac a été édifiée à Dawson pour ne pas oublier le passé et se souvenir de ce personnage déterminant dans l'histoire de la Première Nation. Le rôle de l'éducation est essentiel dans le chemin vers la réconciliation. À ce titre, une lettre d'entente a été signée à l'école Robert Service le 30 août dernier. Cet accord supplémentaire vise à renforcer et à officialiser l'engagement de bâtir un système d'éducation plus inclusif et plus représentatif de la culture et des valeurs de la Première Nation des Trondek Wichin. Cette lettre rappelle l'importance d'inclure tous et toutes les élèves, tant celles et ceux de la Première Nation des Trondek Wichin, que les jeunes inscrits au programme français Confluence, par exemple. Cette journée du 30 septembre invite finalement la communauté à s'inspirer de la culture et de l'art autochtone, à échanger notre vision de la nature ou tout simplement à en savoir plus sur le territoire dans lequel on vit. Une vision de l'environnement loin de la culture mainstream dominante. D'ailleurs, de nombreux scientifiques font aujourd'hui appel aux connaissances écologiques traditionnelles des Premières Nations, illustrant un échange de connaissances bénéfiques pour les deux parties. C'est le cas, par exemple, de Guillaume Nielsen, titulaire d'une chaire de recherche industrielle en décontamination des mines du Nord à l'Université du Yukon. Le chercheur rapporte que l'aide de la Première Nation des Na-Cho-Niak-Dun, située à Mayo, lui a été précieuse dans divers aspects de sa recherche. La communauté autochtone a également souhaité en savoir plus. Bref, cette collaboration est aussi une occasion de souligner et de reconnaître la valeur de ces ressources presque capital pour notre survie, dans un état d'urgence climatique. Finalement, c'est se connaître, c'est réapprendre à renouer avec ses émotions, sa culture, ses origines, mais aussi avec les autres, pour tendre vers une société en meilleure santé. C'était « Réapprendre à se connaître ». Un texte de Gwendoline Le Beaumain, paru le 26 septembre 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Pour une parentalité joyeuse, avec des limites, un texte d'Olivia Lévy, paru le 17 octobre 2024 dans la presse. Caroline Goldman est une psychologue pour enfants et adolescents bien connue en France pour ses balados et chroniques qui abordent la parentalité ainsi que pour ses positions controversées contre les excès de l'éducation positive et sur le TDAH. Dans son guide des parents d'aujourd'hui, elle prône une éducation joyeuse avec des limites éducatives. Sinon, c'est le chaos, dit-elle. Entrevue. Un des premiers conseils que vous donnez aux parents, c'est d'être heureux. Occupez-vous de vous pour vivre la vie que vous souhaitez et l'enfant sera éclaboussé par cette joie. Quand on a des parents heureux, on a un enfant heureux en général. L'enfant a besoin d'amour, de tendresse, de câlins et il aime voir les adultes autour de lui heureux de vivre, de bonne humeur et qui aime rire avec lui. L'enfant a aussi besoin d'être encouragé, félicité, pour qu'il ait confiance en lui. L'autre ingrédient incontournable, c'est l'apprentissage des limites éducatives. L'enfant doit avoir un cadre, c'est fondamental, pour son sain développement. Vous conseillez le « time out », c'est-à-dire mettre à l'écart un enfant lorsqu'il désobéit ou, par exemple, lorsqu'il tape son frère ou sa sœur? Oui. Un enfant âgé de plus d'un an qui lance ses lasagnes sur son frère ou sa sœur, qui jette ses jouets sur le mur, il a besoin d'être mis à l'écart quelques minutes, d'aller dans sa chambre pour se calmer. Lorsque l'enfant défie les règles parentales, et appelle la limite en nuisant à lui-même et aux autres, on pratique le time-out pour une raison qu'il comprend. Il faut avoir des limites éducatives. C'est nécessaire. Je sèche les larmes des petits patients et de leurs familles depuis 20 ans. Et une façon de les faire souffrir, c'est de ne pas leur donner de limites éducatives au même titre que de ne pas leur offrir d'amour. Il faut proposer à l'enfant des relations qui vont faire de lui un être socialement adapté, serein et valorisé. En France, plusieurs vous reprochent cette méthode. Je pense que les excès de l'éducation positive à la française vont se réguler avec le temps. Et ça commence déjà. Les parents n'en peuvent plus. Les professeurs ne veulent plus enseigner. Ils font face à des jeunes qui n'obéissent à rien et à des parents qui prennent une posture infantile et défendent systématiquement leurs enfants contre la critique et contre l'exigence. En 2022, avec de nombreux professeurs de psychologie et chefs de service en pédopsychiatrie, on a écrit une tribune qui alertait des dangers sur la santé mentale des enfants et des ados des excès de l'éducation positive. Quels sont ces dangers? Les dangers, c'est que ça sème le chaos dans les familles et à l'école. Ça épuise les parents et les professeurs. Ça fait prendre le risque de céder aux violences éducatives parce qu'un enfant pénible, c'est un enfant qui, un jour, va prendre une claque. Car ses parents, même s'ils sont dans l'éducation positive, ils vont finir par craquer, car leur enfant n'a jamais eu de limites. Je les vois, ses parents, dans mes consultations, et ils ont craqué. Ils ne voulaient surtout pas avoir de rapport de force et sont pris dans un chaos inouï. Un enfant, c'est merveilleux, c'est adorable. Je leur consacre ma vie à titre de psychologue, et j'en ai quatre. Mais c'est aussi épuisant, et ça met à l'épreuve toutes les ressources psychiques et physiques. Il faut donner aux parents des modes d'emploi qui sont fonctionnels et qui apaisent tout le monde. Quand les enfants grandissent, le fait de ne pas avoir reçu de limites éducatives, ça ne fait qu'accroître leur agressivité et leur souffrance psychique. Ça génère du harcèlement, de l'exclusion sociale et du décrochage scolaire. Qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans dans la parentalité? Il y a moins d'enfants dans les familles et on les a plus tardivement. Mais ce qui a plus changé dans la parentalité aujourd'hui, c'est qu'elle offre une plus grande indistinction des postures générationnelles. Les parents sont les amis de leurs enfants. Ils sont plus dans la séduction que dans l'éducation. Et ce n'est pas sans conséquence. Il y a les parents qui se mêlent des histoires conflictuelles des enfants avec leurs amis, alors qu'il est fondamental qu'ils aient un espace relationnel indépendant de la famille. J'observe aussi ce grand magma intergénérationnel où les parents et les ados font partie des mêmes soupers et fêtes. Les ados assistent aux conversations des adultes, les ados deviennent les confidents de leurs parents, et tout ça amène de la confusion. Ce n'est pas anodin de dire à un enfant « Maintenant, c'est le temps des adultes. Faites votre vie de votre côté, on fait les fêtes d'une autre. On n'a pas les mêmes âges, on n'a pas les mêmes sujets de conversation. » On peut le dire avec beaucoup de tendresse. Et les enfants sont rassurés de voir qu'ils n'ont pas de rôle à jouer dans cet environnement relationnel adulte. A-t-on du mal aujourd'hui à laisser nos enfants et adolescents grandir? Le nombre de parents à qui je fais réaliser que leur enfant n'en est plus un, c'est incroyable. Ils s'occupent de leurs adolescents comme si c'était encore un nourrisson alors qu'ils ont 16 ou 17 ans. Ce n'était pas le cas de nos parents. On dirait que ce mouvement de surinvestissement des parents perdure avec l'âge. C'était « Pour une parentalité joyeuse avec des limites », un texte d'Olivia Lévy paru le 17 octobre 2024 dans la presse.
L'anxiété ordinaire de Fanny Britt, un texte de Benoît Lelièvre paru le 19 septembre 2024 dans Urbania. Avec « Bonjour mon cœur », l'autrice lève le voile sur le mal du siècle. Je ne me sens pas tellement loin de la fille de 14 ans que j'ai été. apparu au coin des rues Henri-Julien et de Castelnau dans la chaleur cotonneuse d'une ultime canicule estivale, Fanny Britt me raconte l'écriture de son nouveau roman jeunesse, Bonjour mon cœur, avec franchise et vulnérabilité. Dissimulée derrière ses lunettes de soleil et son café, elle me parle à la fois de son œuvre et d'elle-même. Pour elle, ça semble indissociable. J'ai l'impression de ressentir encore la même fébrilité, les mêmes doutes, précise-t-elle avec un sourire timide. Ça a été très facile pour moi de replonger dans cet état d'esprit. Romancière, dramaturge et traductrice émérite, Fanny Britt est une force créative du milieu littéraire québécois depuis bientôt 25 ans. Ses romans « Les maisons » et « Faire les sucres » font encore beaucoup jaser et ses pièces de théâtre font courir les connaisseurs. Malgré une œuvre impressionnante, Fanny n'avait pas encore écrit de roman comme « Bonjour mon cœur » destiné aux ados et pré-ados dont la vie se résume à une suite ininterrompue de changements. Une période difficile pour tout le monde et décrite avec sensibilité par l'autrice. Redevenir une ado à 47 ans. Bonjour mon cœur raconte l'histoire de Bernadette, une ado montréalaise en vacances d'été avec sa famille dans le Bas-Saint-Laurent. Introvertie et angoissée de nature, elle soupçonne qu'elle souffre d'une maladie cardiaque. Avec un été de nouvelles expériences et de rencontres spontanées qui s'offrent à elle, le petit cœur tourmenté de l'adolescente en prendra pour son rhume. Je suis aux prises avec l'anxiété, depuis toujours, mais ça a pris longtemps avant que je comprenne de quoi il s'agissait. C'est demeuré un mystère jusqu'à la vingtaine, je dirais, m'explique Fanny. L'autrice avait le goût de parler d'anxiété ordinaire. Pas de l'anxiété qui coupe les jambes et court-circuite la vie, mais plutôt de celle qu'on traîne chaque jour avec nous comme un boulet. Celle qu'elle connaît. Elle a donc créé un personnage qui lui ressemble. Cérébrale, hypervigilante et très critique aussi. Bernadette est quand même chialeuse. Elle a des opinions très tranchées. J'étais comme ça, moi aussi, affirme-t-elle. L'histoire de « Bonjour mon cœur », c'est tout d'abord celle d'une prise de conscience et d'un apprentissage important. Il n'y a pas de héros ni de méchants. Personne ne meurt et personne n'est sauvé, du moins pas littéralement. C'est une histoire à la fois ordinaire et extraordinaire. Fanny Britt tient cet amour du réalisme psychologique de la prolifique romancière américaine Judy Blume. Cette rencontre avec des personnages réalistes, avec des vies ordinaires qui vivent les mêmes choses que toi dans un autre contexte, m'a vraiment marqué. Lire à propos d'une jeune fille juive new-yorkaise qui avait ses premières règles, ça me faisait capoter. C'est demeuré un modèle pour moi, raconte l'autrice. Redevenir une ado n'a cependant pas été sans embûches pour Fanny. Aujourd'hui mère de deux grands garçons, elle a dû s'éloigner de ce rôle pour donner vie à Bernadette. Elle a trouvé parfois difficile de ne pas pouvoir concevoir Bernadette avec son regard d'adulte. Malgré que les parents de cette dernière jouent un rôle crucial dans le roman, l'exercice consistait plutôt à demeurer avec elle et de voir le monde avec toute la fureur de vivre de l'ado qu'elle a été. Une partie du roman tourne autour de ses incompréhensions et ses jugements à propos de ses parents qu'elle vient à dénouer au fil des événements, précise-t-elle. Parler de santé mentale en temps de paix. Au moment de notre rencontre, Fanny revient à peine de ses propres vacances dans le Bas-Saint-Laurent où elle possède une seconde résidence. Tu sais, il y a toujours un moment en vacances où tu finis par décrocher et te sentir vraiment bien. Ça m'est arrivé plus tôt ce mois-ci et je me disais qu'il y a du monde qui se sent comme ça tout le temps. Ça doit être vraiment le fun, se remémore-t-elle. En tant que société, on a fait beaucoup de progrès quand il est question du discours sur la santé mentale, mais on en parle surtout en temps de crise. Au fil de ma discussion avec Fanny, on mentionne la série américaine 13 Reasons Why, inspirée du roman du même nom. Celle-ci avait fait couler beaucoup d'encre à sa sortie, puisqu'elle montrait des ados victimes de violences graves, de problèmes de santé mentale lourds et, ultimement, le suicide de l'un d'eux. Pour Fanny Britt, l'anxiété est un combat de tous les jours, avec des enjeux et des conséquences moins faciles à discerner à l'œil nu, et c'était important pour elle d'illustrer ce combat tel quel dans « Bonjour mon cœur ». Ça m'aurait aidé à vivre avec ma propre anxiété si un auteur ou une autrice avait écrit quelque chose là-dessus quand j'étais ado. Ça m'aurait aidé à apprivoiser ça plus tôt et à vivre ça plus ouvertement parce que j'ai vécu beaucoup de honte. J'ai longtemps eu l'impression que c'était débile d'être comme ça. Fanny entrevoit aujourd'hui l'anxiété comme une amie qui lui veut du bien sans trop savoir comment s'y prendre. Si elle vit mieux avec certains aspects, elle lutte encore avec d'autres. Je ressens beaucoup de culpabilité d'avoir transmis ça à mes garçons sans le vouloir, mais tout ça est assez ouvert chez nous. C'est une grande fierté, ça, qu'on réussisse à être ouvert. J'ai dit à un de mes fils l'an dernier, « Je suis tellement désolé de vous avoir passé ça, et tu sais ce qu'il m'a répondu ?» Tu devrais pas, parce que tu connais ça vraiment bien et que tu peux nous aider, me raconte-t-elle avec un brin de fierté dans la voix. C'est dans ce même état d'esprit que Fanny Britt a déversé un peu d'elle-même dans Bonjour mon cœur. Pour accompagner les jeunes le long du chemin tortueux de l'adolescence, sans toutefois s'interposer, je pense que les jeunes souffrent beaucoup du besoin de leurs parents de ne pas les voir souffrir. J'ai moi-même fait cette erreur souvent, c'est-à-dire de vouloir leur éviter la souffrance. C'est difficile d'accepter que ces enfants vont faire des erreurs et en payer le prix. Bonjour, mon cœur est un roman jeunesse, mais qui raconte une histoire qui a le potentiel de toucher petits et grands. Une lecture agréable, touchante et douce. Si mon livre peut aider une ou plusieurs jeunes filles qui se posent les mêmes questions que Bernadette, ce sera toujours ça de gagner. Ce serait un grand succès pour moi qu'il soit enseigné dans une classe. J'aimerais vraiment en parler avec des élèves, conclut-elle. C'était « L'anxiété ordinaire » de Fanny Britt, un texte de Benoît Lelièvre, paru le 19 septembre 2024 dans Urbania.
Il y a une étoile, un voyage musical dans l'Acadie queer. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Dans le documentaire musical « Il y a une étoile », le réalisateur Julien Cadieux suit un jeune homme trans, Samuel Leblanc, et va à la rencontre d'autres personnes trans, queer, non-binaires, bispirituelles, dans les différentes régions qui forment son Acadie natale. Elles sont sorties du placard, mais ont décidé de rester dans leur petite communauté, revendiquant une double appartenance, celle d'être queer et celle d'être acadienne. Après des études en production cinématographique à l'Université Concordia, Julien Cadieux s'est dévoué à la réalisation. Depuis plus de 10 ans, il cumule divers projets en tant que réalisateur de séries documentaires, de moyens et longs métrages documentaires ou de courts métrages. Dans ses œuvres se manifeste son intérêt pour les arts, l'identité queer, l'Acadie et pour les rencontres humaines qu'il fait tout au long de son parcours. Inspiré par l'œuvre de la chanteuse Angèle Arsenault, le réalisateur Julien Cadieux voulait depuis longtemps tourner un film musical sur la communauté queer de l'Acadie. Pour Julien Cadieux, la chanteuse acadienne symbolise bien cette double appartenance. Il y a dans les chansons d'Angèle Arsenault une revendication féministe, une volonté de se soustraire aux normes oppressives, et quand on est différent comme le sont les personnes qui témoignent, on se reconnaît dans ces chansons. Et puis elle revendiquait son appartenance à l'Acadie. En fait, tout à voir avec l'intersectionnalité. L'étincelle s'est finalement produite lorsque le cinéaste a découvert les membres du groupe Écarlate, soit Samuel Leblanc, Clémence Langlois et Daphne McIntyre. Le film va au-delà de la simple compilation de témoignages sur la diversité, mais démontre un véritable attachement aux origines et à cette identité géographique et linguistique qu'est l'Acadie. Et pour y arriver, le réalisateur a choisi une proposition forte. Je voulais représenter toutes les parties de l'Acadie avec sa langue propre. Comme il n'y a aucune concession aux normes oppressantes pour tout ce qui touche au genre et à l'expression de soi, il n'y a pas de concession linguistique, explique Julien Cadieu. Les personnes en entrevue parlent le chiac, un français dans lequel se mêle l'anglais. Ce qui fait dire à une des personnes en entrevue dans le documentaire que le chiac, c'est comme une poésie de la non-binarité, se fondant sur le fait que l'anglais est plus inclusif que le français. Dans des villages, des petits ports, on fait la connaissance avec des dragues, des trans, des lesbiennes et des gays, des jeunes comme des moins jeunes, qui ont tous et toutes fait le choix de rester auprès des leurs et surtout de se faire reconnaître dans leur propre expression. Les fêtes devenant des moments privilégiés pour célébrer et exposer leurs différences, mais aussi pour rappeler leur appartenance à la même grande famille acadienne. Je souhaitais montrer des visages différents, pas uniquement des trans ou des dragues, continue Julien Cadieu. Et aussi parler, comme avec Jack, ce vieil homme qui a vécu ouvertement comme gay dans son village, du fait que ces différences ne dataient pas d'aujourd'hui. Il parle de ce danseur étoile au début du siècle dernier, Adolphe Robichaud, qui a triomphé sur les scènes européennes et américaines et qui a créé en 1958, avec son conjoint Arthur Vaillancourt, un premier musée acadien à Metegan, en Nouvelle-Écosse. Je voulais qu'il y ait aussi un lien avec l'histoire. Le musée acadien, abandonné depuis des années, est actuellement en rénovation. Entrecoupé par les chansons d'Angèle Arsenault interprétées par des dragues ou par les amis de Samuel Leblanc, ou encore par des parades de la fierté, Il y a une étoile se présente comme une découverte d'histoire et d'une autre histoire, plus grande, celle de l'Acadie, avec des personnages attachants, des témoignages touchants, sous le signe du partage, des solidarités et surtout de l'importance de devenir ce que l'on est vraiment. Suivre l'étoile, qui est peut-être là pour nous et qu'il suffit de reconnaître en soi. C'était « Il y a une étoile », un voyage musical dans l'Acadie queer. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le